Leclerc.
Allô Régis, écoute, en ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 70% de tickets Leclerc sur les couches Pampers Baby Dry.
Papa, c'est Juliette là.
Je ne veux pas le savoir. 70% de tickets Leclerc, Régis.
Papa.
Du 2 au 13 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Les Pampers Baby Dry en maxi-pack, taille au choix, sont à 29,64€. Avec en plus 70% ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Desmousseau qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à l'affaire du Temple solaire. Tout le monde a entendu parler de l'ordre du Temple solaire et des suicides collectifs qui ont fait entre octobre 1994 et mars 97 au Canada, en Suisse et en France, 74 victimes, dont 11 enfants et adolescents. On a retenu de ces drames l'histoire d'une folie, celle des deux fondateurs de ce mouvement initiatique aux allures de secte, un médecin aux pratiques sulfureuses, Luc Jouret, et un ancien barbouze qui avait basculé dans l'ésotérisme, Joseph dit Mambo. Mais aujourd'hui, près de 25 ans après le premier massacre de 1994, on peut se demander si toute la vérité a bien été dite sur cette affaire. Certains proches des victimes pensent que les véritables commanditaires de ces assassinats collectifs n'ont jamais été inquiétés par la justice, ni en France, ni en Suisse, ni au Canada. Nous verrons tout à l'heure ce que pensent de cette hypothèse mes deux invités que je vous présente tout de suite. Julien Sansonnens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez pas de très loin, vous venez de Suisse. Et notre attention a été attirée par la publication de votre dernier livre, L'enfant aux étoiles, qui vient de paraître aux éditions de L'Air. C'est une maison d'édition de Vevey, je crois,
c'est juste.
En Suisse. Et dans un petit instant, je vous poserai une question très brève, mais très importante pour nous, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à cette affaire. Et puis, Éric Lemasson, il est journaliste d'investigation et bien connu des auditeurs de l'heure du crime, auteur en 1996 d'un documentaire de télévision, Soleil trompeur. Éric Lemasson, vous aviez diffusé cette contre-enquête dans l'émission de France 2 Envoyé spécial.
Oui, bonjour Jacques, ça remonte à loin, en effet. J'avais enquêté longuement, et d'ailleurs quand on met le doigt, je pense que votre autre invité dira la même chose, quand on met le doigt dans cette affaire, on n'arrive plus à sortir, et pour ma part je me suis intéressé pendant 5 ans à l'ordre du Temple solaire, et c'est une histoire absolument vertigineuse.
Et vous y avez fait d'ailleurs au cours de cette enquête des découvertes sur lesquelles on va revenir. Julien Sansonnens, à la différence d'Éric Lemasson, la contre-enquête ne vous intéresse pas. La vérité judiciaire, vous l'acceptez telle qu'elle est. Vous n'aimez pas le mot de secte. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette affaire?
Alors, vous l'avez dit, je suis suisse.
Et vous aviez 15 ans en 1994.
J'avais 15 ans, effectivement. Et je le raconte dans le livre, j'avais été plus marqué par la mort de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, qui avait eu lieu effectivement quelques mois auparavant. Et j'habite à quelques kilomètres de Salvan, du village de Salvan, qui a été l'un des deux villages en Suisse où cette tragédie s'est déroulée. Et donc, en Valais, reste dans l'inconscient collectif, je dirais, dans la mémoire de ces lieux, une part de mystère lié à l'ordre du Temple solaire qui m'a intéressé en tant que romancier.
Ouais. Oui, mais vous dites aussi qu'il y a le mot roman sur la couverture, mais que ce n'est pas un roman.
C'est un livre un petit peu hybride, effectivement. Il y a une part d'enquête avec un travail de documentation qui a duré alors un petit peu moins long que pour Monsieur Lemasson, mais ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse à cette affaire. Et puis, il y a une part de réflexion, finalement, sur ce qu'a été pour la Suisse l'affaire de l'ordre du Temple solaire. Comment on reçoit un choc d'une telle ampleur pour la Suisse? Imaginez, un massacre de 54 personnes, c'est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire contemporaine suisse. Et comment ce drame a été ressenti en Suisse?
Est-ce que ce drame a un sens? Et quel sens, évidemment, c'est quand même une des questions centrales. On va faire une première pause tout de suite. Et puis ensuite, je vais vous raconter, on va prendre le temps pour cela, avec des documents d'archives de la rédaction d'RTL, de vous dire comment tout a commencé.
L'heure du crime sur RTL.
L'ordre du Temple solaire, OTS, a été fondé à la fin des années 70 par un certain Joseph Di Mambro, un homme attiré depuis toujours par l'ésotérisme, les mystères et les secrets des Templiers et autres soi-disant initié. Cet escroc au petit pied qui se présentait comme guérisseur et qui a vécu pendant des années au crochet d'hommes et de femmes fascinés par ses prétendus pouvoirs, avait compris qu'il pouvait les entraîner avec lui encore plus loin et les convaincre de remettre à la secte l'essentiel de leurs revenus, parfois très important. Les adeptes faisaient ainsi partie d'une sorte de franc-maçonnerie occulte en lien avec de grands initiés qui pouvait aider à sauver le monde, pas moins. En 1981, Luc Jouret, un médecin homéopathe belge d'une trentaine d'années, rejoint la secte. Le gourou, Di Mambro, le prend sous son aile et le médecin illuminé, qui vit principalement de conférences dans les cercles ésotériques, devient son bras droit. Comme sergent recruteur. Il a un grand charisme, il profite des séminaires et des conférences pour rabattre de nombreux adeptes dont certains vont directement verser à l'OTS toute leur fortune personnelle. Le gourou et son adjoint se déplacent à travers le monde, toujours en première classe dans les avions, pour éviter, disent-ils, les mauvaises vibrations qui menaceraient leur pouvoir. Ils descendent dans des palaces, ils aménagent des propriétés luxueuses appartenant à certains de leurs adeptes, avec des chapelles secrètes, des cryptes destinées à recevoir les messages des maîtres invisibles qui gouvernent secrètement la planète. Le noyau dur des adeptes est réuni dans une propriété en Suisse où ils mènent une vie communautaire ascétique entre rituels de méditation, incantations et culte de la personnalité du grand maître. Celui-ci, d'ailleurs, multiplie les miracles, les révélations et les mises en scène extravagantes. Il décide de la vie quotidienne, affective et sexuelle des adeptes. L'OTS devient un véritable empire financier également, qui s'étend peu à peu à la France et au Canada, où les 600 membres devront un jour, disent-ils, se replier pour échapper à la fin du monde lorsque les temps seront venus. Au fil des années, en effet, Di Mambro et Jouret multiplient les prophéties millénaristes morbides. Leur discours paranoïaque annonce à certains membres de la secte qu'ils ont été élus pour participer à un transit, un voyage vers l'étoile Sirius, afin de rejoindre les grands initiés qui réclament là-bas leur présence. Ce transit les débarrassera de leur enveloppe corporelle et ils seront alors des êtres de lumière purement spirituels. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que ce transit signifie le suicide collectif et la mort. Début octobre 1994, les gourous basculent dans la folie meurtrière et la tragédie commence par une véritable tuerie. 5 adeptes de la secte sont retrouvés assassinés dans une maison de la banlieue de Montréal. Ils ont été poignardés. Un bébé de 3 mois est retrouvé avec un pieu planté dans le cœur. Ses 2 parents ont reçu plusieurs dizaines de coups de couteau. On découvrira plus tard que Joseph Di Mambro avait exigé la mort de cet enfant, présenté comme l'antéchrist. L'auteur du massacre, un certain Joël Egger, quitte aussitôt le Canada pour rejoindre les autres membres de la secte en Suisse et pour mourir avec les autres initiés au cours d'un premier transit collectif. Le 5 octobre 1994, coup de tonnerre. 48 adeptes de l'OTS sont retrouvés dans 2 chalets, dans le Valais et près de Fribourg. Dans les ruines calcinées des deux maisons, la police suisse retrouve les cadavres dont les têtes sont recouvertes d'un sac poubelle. Parmi les victimes, on identifie Joseph Dimambro, Luc Jouret et leurs compagnes respectives. Tous les adeptes ont d'abord été drogués, puis assassinés d'une ou de plusieurs balles dans la tête. Les auteurs du massacre se sont ensuite suicidés en actionnant un mécanisme de mise à feu qui a déclenché l'incendie des deux chalets. Sur RTL, Jean-Benoît Vion, notre envoyé spécial en Suisse, révèle le 8 octobre 1994 les premiers éléments qu'il a pu recueillir sur place.
Depuis hier matin, des dizaines et des dizaines d'adeptes du Temple du Soleil se rendent dans les commissariats de police de toute la Suisse. Ils expliquent les rites et le système de la secte, une secte dans laquelle les plus riches devenaient les grands prêtres. Mais toutes ces personnes sont désormais terrorisées. Elles ont peur. Elles demandent la protection de la police car ses membres pensent que ce suicide collectif n'est pas possible. Ce n'était pas dans l'esprit, dans les rites de cette secte qu'il s'agit là d'un meurtre organisé pour punir ceux qui ne voulaient plus donner tout leur bien aux deux gourous, Luc Jouret et Joseph Dimambro. Les enquêteurs, eux aussi, n'envisagent plus la thèse du suicide collectif. Il y a d'abord les seringues et le valium retrouvés dans les chalets de Salvan, les deux balles dans la tête des cadavres de la ferme de la Rochette. Enfin et surtout, le système de mise à feu était ultra perfectionné. Un simple appel téléphonique a pu déclencher toutes les explosions. Et les enquêteurs rappellent que Luc Jouret était un spécialiste. Il était en 76 dans les paracommandos belges.
Au total, entre septembre et octobre 1994, 53 membres de cette secte auront donc péri en Suisse et au Canada dans des circonstances mystérieuses. 14 mois plus tard, nouveau suicide collectif en France cette fois. Le 23 décembre 1995, 16 membres de l'OTS, dont 3 jeunes enfants, sont retrouvés carbonisés dans une forêt proche du petit village de Saint-Pierre-de-Chérennes, au lieu dit le Trou d'Enfer. Serge Pueyo, le correspondant d'RTL dans la région, se rend sur les lieux du drame en fin de journée.
La nuit est tombée depuis un peu plus d'une heure sur la forêt de Saint-Pierre-de-Chérennes et les techniciens parisiens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont toujours sur les lieux du drame, éclairés par des projecteurs pour effectuer les premières constatations et tenter d'identifier les 16 corps carbonisés. Une tâche longue et difficile qui devrait durer encore toute la nuit et même peut-être plusieurs jours. Les corps reposent dans une légère cavité au beau milieu d'une clairière. Samedi dernier, un chasseur avait senti une odeur de brûlé dans le secteur et avait vu des traces de pas dans la neige. Les 4 voitures des adeptes de la secte étaient déjà là, garées sur le parking. Le drame pourrait donc remonter à samedi dernier. Des armes ont été retrouvées à proximité des corps, ce qui rappelle les mises en scène macabres de Salvan et de Chéry en octobre 1994. Certains adeptes ont sans doute tué par balle d'autres membres de la secte avant de mettre le feu au corps et de se suicider. Un scénario qui a jeté l'effroi ici et la consternation dans le petit village de Saint-Pierre-de-Chérennes, d'ordinaire si tranquille.
Les corps ont été retrouvés le 23 décembre, mais le drame aurait eu lieu 8 jours plus tôt, dans la nuit du 16 au 17 décembre. Le scénario est d'ailleurs quasiment identique à celui qui s'est déroulé en Suisse l'année d'avant. Les victimes sont disposées en étoiles. Les corps sont partiellement ou totalement calcinés. Certains ont été drogués, puis abattus à coups de pistolet. On suppose que 2 d'entre eux ont tué les autres, puis se sont suicidés d'une balle dans la bouche. Serge Pueyo recueille pour RTL le premier témoignage d'une des rares personnes qui a pu voir la scène du drame et les victimes disposées en étoiles. Il s'agit du maire du village de Saint-Pierre-de-Chérennes.
C'est un spectacle extrêmement pénible qui remue. Ils sont disposés, comme on vous l'a dit, en étoiles, la tête à l'arrière, les pieds à l'avant. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est un spectacle vraiment, vraiment pénible, insoutenable. Oui. Les corps se trouvent dans une cuvette et ils sont donc disposés en forme de soleil. C'est clair et net, quoi. Tout ce que j'ai vu, c'est que la tête est à l'arrière, les pieds à l'avant.
Les corps sont carbonisés?
Oui, c'est tout noir. Mais les personnes semblent quand même reconnaissables. Une vision d'horreur, oui. C'est un petit village très calme qui ne méritait pas ça.
Vous comprenez pas?
On ne comprend pas. Avec le recul, on ne voit absolument pas pourquoi ils sont venus là.
Il n'y a aucune explication pour vous?
Aucune explication pour l'instant pour nous. Je dis bien, il n'y a qu'à côté de l'endroit où ils sont, un genre de cialet qui s'appelle Puits de l'Enfer. Est-ce que ça peut avoir une correspondance avec ça?
Parmi les victimes, on identifie deux policiers français, trois enfants âgés de 2 à 8 ans, ainsi que Edith Vuarnet, l'épouse d'un grand champion de ski, Jean Vuarnet, et leur fils cadet, Patrick. 15 mois plus tard, le dernier acte de cette tragédie se déroule outre-Atlantique, alors que tout le monde pense que la secte a abandonné sa folie meurtrière après les disparitions dramatiques des gourous et de leurs principaux adeptes. Le 22 mars 1997, 5 personnes, dont 3 Français, Didier Quez, son épouse Chantal et la mère de celle-ci, sont retrouvées carbonisées à Saint-Casimir, au Québec. Seuls les 3 enfants du couple, âgés de 13 à 16 ans, ont échappé à la mort. En 2 ans et demi, 74 personnes, dont 11 enfants et adolescents, ont perdu la vie à cause de la folie meurtrière de la secte du Temple solaire. Les enquêtes judiciaires ont débouché sur des non-lieux dans les 3 pays concernés. Les dignitaires survivants n'ont finalement pas été inquiétés. Certains proches du dossier demeurent persuadés que les véritables auteurs de ces assassinats collectifs n'ont pas été démasqués. Une pause et on retrouve mes invités.
L'heure du crime sur RTL.
Et à la une de notre émission ce soir, l'affaire de l'ordre du Temple solaire, avec Éric Lemasson et Julien Sansonnas. On va maintenant aller plus loin. Ce ne sont pas deux invités qui ont le même point de vue sur l'affaire, je vous le dis tout de suite. Éric Lemasson, lui, est journaliste d'investigation. Il a mené une contre-enquête pour la télévision, notamment pour l'émission Envoyé spécial à l'époque. En 1996, ce film a été diffusé donc sur la télévision française. Et Julien Sansonnas, lui, il est écrivain, il vit en Suisse, il vient de publier alors un roman, mais on apprend très vite que le mot roman ne correspond pas exactement au contenu du livre. Ce livre s'intitule « L'enfant aux étoiles », il vient de paraître aux éditions de L'Air, A-I-R-E, c'est pas l'air du Verseau. Mais, et c'est à cause de vous qu'on fait cette émission. Je vous le dis tout de suite, parce que quand on a commencé à se plonger dedans. Alors, on remet les choses au point très rapidement. Ça n'est pas une contre-enquête de journaliste, vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas en train de chercher des vérités cachées. Ce qui vous a intéressé, c'est tout. Vous cherchiez, je crois, de la documentation pour un futur roman, et vous êtes tombé sur cette histoire de l'ordre solaire, et vous avez, on peut dire que vous avez été avalé par l'histoire, quoi.
C'est exactement ça. Vous avez tout à fait bien résumé la situation. Je cherchais à faire un polar en Valais, ouais, qui est un endroit très particulier en Suisse, puisque c'est un endroit touristique, hein, très ouvert sur le monde. Et puis une région de Valais, un petit peu obscure, comme ça, avec beaucoup de traditions, une région catholique aussi, hein, où l'Église a un rôle très important. Et j'ai eu envie de situer un polar en Valais. J'ai donc cherché quelles avaient été les grandes affaires criminelles, effectivement, qui se sont déroulées en Valais. Il y en a eu quelques-unes, dont, évidemment, l'ordre du Temple solaire. J'y suis très vite tombé sur cette affaire. Je pensais lire un ou deux articles, comme ça, en passant. Et un petit peu comme le disait Éric Lemasson juste avant, on est totalement happé par l'immensité de ce qui s'est joué, la complexité d'une affaire qui nous révèle vraiment la profondeur et la noirceur totale de l'âme humaine. Et je pense que pour un écrivain, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, passionnant. Et c'est un livre, vous l'avez dit, qui pose plus de questions qu'il ne livre de réponses.
Alors, on comprend aussi pourquoi vous n'avez pas fait d'enquête, parce que les premières pages de votre livre sont consacrées à des messages que vous avez reçus en retour à vos questions de proches de l'ordre du Temple solaire, ou de gens qui ont été des adeptes à l'époque et qui toutes déclinent effectivement le fait d'en reparler avec quelqu'un.
Oui,
quoi.
Oui, j'ai dû envoyer une cinquantaine de lettres et reçu 49 réponses négatives. Et un coup de téléphone qui m'a permis d'apprendre que la personne n'avait plus grand-chose à dire non plus. C'est particulier, hein, puisqu'on est quand même maintenant presque 30 ans après les faits, ce silence qui marque l'ordre du Temple solaire. Toute l'histoire de l'OTS tourne autour du silence et du secret. Hein, et ce secret, d'une certaine manière, continue aujourd'hui de s'opérer. C'est très étonnant. Alors les gens, naturellement, ont envie d'être tranquilles et on peut le comprendre. Leur vie a été totalement bouleversée, que ce soit les familles ou les survivants. On peut comprendre qu'ils aient envie d'être tranquilles, mais il y a peut-être aussi encore quelque chose de l'ordre du serment du secret qui a été donné, qui continue d'opérer aujourd'hui.
Et c'est là, en fait, où le romancier prend tout son sens, c'est que vous, ce qui vous intéresse, c'est ce, à la fois ce huis clos, bien que le mot soit pas tout à fait adapté au nombre quand même important d'adeptes, c'est ce qui se passait entre ces gens, c'est pourquoi le charisme de cet homme d'Imambro, qui était aussi un escroc et presque un prestigitateur, mais qui en même temps avait cette recherche initiatique.
Absolument.
Et j'ai senti dans les lignes que vous écrivez sur lui que pour vous, il était très sincère là-dedans. Il se considérait comme le représentant sur Terre des maîtres cosmiques, c'est pas rien. Hein.
C'est ça qui est extrêmement intéressant dans la personnalité d'un Joe DiMambro. Il faut comprendre ça si on veut vraiment comprendre un petit peu plus ce qu'a pu être l'OTS. C'est que c'est à la fois un escroc. Son passé d'escroc est connu, il est documenté, hein, petites arnaques à l'assurance, immobilière, etc., etc. Il a fui d'ailleurs le sud de la France pour venir en Suisse pour ces raisons-là. Et puis, c'est quelqu'un qui était authentiquement convaincu, et ça j'en suis persuadé, et beaucoup d'éléments en témoignent, était authentiquement convaincu par ce qu'il disait. Ce qui était le cas aussi dans Luc Jouret, ce qui était le cas de tout le cercle des plus proches, finalement. Hein. Ils étaient convaincus de cette mission, où ils s'étaient convaincus de cette mission-là.
Voilà, où il y avait des séances de méditation le soir. Alors, tout ça, on le découvre par l'intermédiaire, là, pour le coup, d'un personnage. Je suppose que, mais je m'avance peut-être, Elisabeth n'a pas existé.
Elle a existé, son nom a été changé, effectivement. Mais elle a existé, tout à fait.
Alors, Elisabeth, c'est une jeune femme qui, à 20 ans, rencontre DiMambro, et cette rencontre va bouleverser sa vie.
Oui, cette rencontre va la mener à la mort plusieurs décennies plus tard. Mais c'est très intéressant de voir comment une rencontre, finalement, un branchement à un moment de la vie, un peu comme ça, dessiner des destins tragiques. J'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est une jeune femme qui souffrait simplement d'un chagrin d'amour, comme on peut en vivre à 20 ans. Et ses parents, cherchant de l'aide, cherchant une solution, ont un petit peu demandé autour d'eux et sont tombés sur un psychologue et sa femme, en l'occurrence. Joe DiMambro, qui n'était pas psychologue, par contre sa femme l'était vraiment. Et Joe DiMambro proposait des thérapies pour les jeunes, de remise en forme, de remise sur les rails, etc. Et puis, c'est assez bien documenté, finalement, les premiers mois et les premières années d'Elisabeth au sein de l'OTS, qui d'abord rejetait totalement ce milieu qu'elle comprenait pas. Et puis, comment petit à petit, l'emprise, le charisme d'un Joe DiMambro a agi sur elle. Petit à petit, elle a commencé à apprécier ses séances de méditation. Elle a commencé à apprécier qu'on l'écoute vraiment. Peut-être pour la première fois.
Ouais.
Elle a trouvé une forme de secours au sein de ce qui n'était pas encore de l'ordre du Temple solaire et qui était vraisemblablement beaucoup moins dangereux à l'époque où elle l'a rencontré que par la suite.
Ouais.
Et c'est aussi une réflexion sur le bien et le mal, parce que cette pauvre Elisabeth est à la fois une victime totale, puisque par hasard, elle a été en contact avec cette secte. Mais à la fin, elle a pris des initiatives dont même DiMambro lui-même était choqué, tellement elles étaient extrêmes. C'était une fanatique totale. Vous voyez, tous ces gens, toutes ces victimes sont à la fois des salauds et des victimes. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Voilà, et donc elle va découvrir cette maison de maître consacrée à l'âge nouveau, l'école de la vie, qui va devenir une sorte de fraternité, après qui va s'appeler la pyramide. Ils vont aller en Égypte, et puis la pyramide va devenir la Golden Way. Alors les gens qui aiment bien l'ésotérisme pensent à la Golden Dawn aussi, enfin bon, ce serait trop long de revenir là-dessus, mais c'est quand même ce qu'ils appelaient entre eux la Gold, qui va donner naissance à l'OTS.
Oui.
Et si vous voulez bien, on va faire une pause tout de suite et on va revenir tout à l'heure à cette comment dire, à ce huis clos à l'intérieur de la secte, parce que vous y racontez une scène absolument extraordinaire dans laquelle votre héroïne Elisabeth, hein, on va prendre le nom que vous lui avez donné, va apprendre par Joe DiMambro que les maîtres cosmiques l'ont averti que elle allait être la mère d'un enfant conçu par théogamie, où on expliquera tout ça tout à l'heure. Bon, c'est-à-dire, c'est un peu par l'opération du Saint-Esprit, il faut bien le dire. Quoique, à tout à l'heure.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'ordre du Temple solaire, histoire d'une folie. Nous parlons de cette affaire à cause de la publication en Suisse de L'Enfant aux étoiles qu'a écrit Julien Sansonnin, qui est l'un de mes invités. Et puis j'ai demandé à Éric Lemasson qui avait fait cette contre-enquête pour la télévision et qui est un de ceux qui connaît le mieux le dossier de l'ordre du Temple solaire de venir nous rejoindre pour parler cette fois, j'allais dire, on va être dans le dur. Quoi. Dans le dur, c'est l'enquête. Qui a fait quoi? Quel est le sens de tout cela? Comment les autorités ont réagi? Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Et vous avez mené une enquête évidemment de journaliste, c'est-à-dire en partant sans a priori dans cette affaire.
En effet, puisque la première fois que j'ai entendu parler de l'ordre du Temple solaire, c'est en octobre 94, vous avez rappelé les faits. Mmh. Je suis envoyé par ma rédaction, à l'époque Antenne 2, France 2, et je vois dans les ruines des fumantes des chalets de Salvant, la police et les pompiers, les secours qui retire des corps. Et voilà, en effet, on parle de ça.
Premier contact avec cet événement.
Et c'est-à-dire qu'on ne connaît rien et on entend même parler de ce nom de façon tout à fait presque insolite, hors du Temple solaire. Et voilà, on est plongé dans un univers. Et en plus, un an plus tard, vous l'avez rappelé, il y a un autre, entre guillemets, suicide collectif. En fait, la justice, au départ, elle est quasiment dans le même état que les journalistes. Et elle a besoin de certitude. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel il n'y en a pas, c'est celui-ci, précisément. C'est-à-dire que...
C'est du jamais vu, hein.
Il y a eu des suicides collectifs de sectes aux États-Unis.
Aux États-Unis, bien sûr.
Et c'était véritablement des sectes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont un système de poupées russes, avec ou des ensembles, qui ont certaines intersections en commun, mais pas toutes, etc. Je vais vous prendre une petite comparaison. On est trois autour de ce micro. Vous connaissez Julien, vous avez parlé avec Julien Sansonnin, qui est ici. Vous me connaissez. Est-ce que ça veut dire que je le connais? Eh bien, c'est à peu près ça, l'enquête sur l'ordre du Temple solaire. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un groupe ésotérique où il y a des gens un peu farfelus, on va dire, qui rentrent véritablement dans une dérive sectaire. Ça, c'est la fondation Golden Way, avec un groupe d'adeptes d'une secte, on peut le dire, qui vont faire ce fameux transit vers Sirius. Et puis, parallèlement, il y a ce qu'on appelle la résurgence templière, tout un univers proche de l'alchimie, proche d'une certaine franc-maçonnerie comme la Morque, les Rose-Croix, etc. Mmh. Et il y a une intersection entre les deux, et cette intersection va faire que, eh bien, on n'a pas envie d'amalgame, on n'a pas envie pour les uns et les autres de dire que ces gens se connaissent, et la justice, la police, la gendarmerie va avoir bien du mal à déterminer le vrai et le faux. Mmh. Donc, 25 ans plus tard, on n'en sait pas plus, à vrai dire. Et c'est ce qui est intéressant dans cette démarche littéraire, c'est de se dire que finalement, le vrai mystère, il est dans l'enquête psychologique. Comment peut-on arriver à convaincre autant de personnes d'aller vers une sorte de suicide qui, en vérité, sont des assassinats?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut se demander aussi, parce que vous l'évoquez dans le roman, Julien Sansonnin, tout à l'heure, on prendra le temps de raconter cette scène que vous avez reconstituée en tant que romancier de cette conception théogamique, en réunissant le noyau dur de la secte. Et Joe DiMambro, qui est donc le représentant sur Terre des maîtres cosmiques, il a une épée. Cette épée, elle est truquée, quoi. Elle fait des éclairs de temps en temps. Il y a une petite lampe qui s'allume au bout. Et dans l'assistance, il y a des banquiers, il y a un célèbre chef d'orchestre, il y a des gens qui ont eu une éducation longue. Il y a l'épouse de ce grand champion suisse, Vuarnet. Français, pardonnez-moi, mais qu'on a retrouvé donc en Suisse, et on se demande, mais comment, plus c'est gros, plus ça passe.
Oui, Éric Lemasson a bien raison d'expliquer combien ça fonctionnait en cercle, effectivement concentrique. Et tout le principe de ces sociétés aussi initiatiques, ésotériques, c'est que le cercle d'en bas ne connaît jamais la structure au-dessus de lui. Tout ça était effectivement bien cloisonné. Et la fondation Golden Way, c'est ça qui est très intéressant, se présentait et était, de fait, une institution culturelle qui avait pignon sur rue à Genève. Toute la bonne société genevoise, tous les artistes, les patrons d'entreprise de Genève, il était bien vu de passer son week-end Rand à la Fondation Golden Way. Effectivement, il y avait des chanteurs, certains chantent encore aujourd'hui d'ailleurs, qui ont donné des concerts à la Fondation Golden Way. On venait avec les enfants faire du théâtre, etc. Il y avait toute cette activité autour de l'OTS. Effectivement, et on sélectionnait parmi les gens ceux dont on pensait qu'ils pourraient être intéressés, et puis on leur disait, mais attendez, il y a autre chose. Ce que vous voyez là, c'est très beau, c'est très intéressant, mais nous, on vous propose, vous êtes quelques-uns à avoir l'honneur de regarder, de regarder ce qu'il y a un petit peu derrière, et etc., etc. Et chaque fois, on leur proposait d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance, jusqu'à accéder parfois au cercle le plus proche.
Ouais. Quand vous rencontriez pour votre film, j'imagine, Éric Lemasson, des policiers, des magistrats, enfin, j'imagine que vous avez rencontré des proches du mouvement.
Alors, les proches, ils ne voulaient pas.
Vous déjà. Non plus.
Je me souviens parfaitement d'un ancien adepte qui habitait côté français, mais pas très loin de Genève, que je suis allé voir bien longtemps après. Et il était avec sa femme, un vieux monsieur d'allure tout à fait tranquille et tout à fait respectable, et qui m'a dit « Je ne veux pas vous parler. Oui, mais enfin, monsieur... » Il y a quand même des enfants qui ont été assassinés, on ne peut pas parler d'un suicide. Et il me répondait, oui, mais enfin, quand vous choisissez d'emmener vos enfants en vacances à la mer ou à la montagne, vous ne choisissez, c'est pas eux qui choisissent, vous choisissez pour eux. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que la seule parole qu'il y avait pour les plus proches de cette folie, c'était finalement de continuer dans leur aventure totalement déraisonnable. Alors, quant aux policiers et aux magistrats, eux, ils ont besoin de certitudes. Donc, un à peu près, ça ne peut pas convenir. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à certains d'échapper aux sanctions judiciaires. Et c'est en revanche ce qui nous a permis, nous, journalistes, enquêteurs, de peu à peu aller rechercher des éléments. Notamment, ce qui était pour un journaliste plus pratique, d'une certaine manière, c'est que quand vous alliez en Suisse, vous pouviez obtenir des documents ou des renseignements sur le côté français. Quand vous alliez au Canada, ils n'avaient pas trop de difficultés à vous donner des documents qui venaient de la justice suisse, réciproquement. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu obtenir un certain nombre d'éléments.
Il reconnaît le morceau du puzzle.
Voilà. Et puis par ailleurs, il y a eu le hasard ou la chance qui a fait que, en fouillant les décombres des ruines de Salvan, j'ai trouvé des documents absolument incroyables.
Dans une poubelle ?
Dans une poubelle qui avait échappé totalement. Alors là,
c'est
pardon,
votre caméraman, dans sa caméra, il voit qu'il y a une poubelle pleine.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on... Alors, c'est vrai que c'est pas très charitable pour la police et la justice suisse, mais ils avaient pas du tout bien travaillé, la preuve, puisque nous, un an plus tard, on fouille la poubelle avec mon caméraman et on trouve des cassettes audio qui étaient absolument déterminantes pour l'enquête, puisque c'était...
Des conversations d'adeptes...
C'est ça, ils enregistraient la ligne téléphonique et les enregistrements des derniers appels avant les suicides collectifs étaient consignés sur ces cassettes que moi j'ai retrouvées, que j'ai utilisées dans mon documentaire et que j'ai ensuite immédiatement évidemment fourni à la justice suisse qui n'était pas très contente parce que d'ailleurs elle m'a retenu moi en garde à vue parce que j'avais trouvé ça à leur place. Enfin ça c'est pour l'anecdote.
Ouais. Mais enfin voilà, et alors évidemment le contenu de ces cassettes répond déjà à une des questions qu'on se pose et vous êtes posé la même question Julien Sansanas puisque dans votre vous publiez des textes, notamment l'espèce de profession de foi que devaient signer les adeptes. Et on voit que ces gens que je décrivais tout à l'heure, eh ben, ils parlent comme ça, c'est un peu comme passe-moi le sel, tiens, est-ce qu'on va faire le transit sur Vénus ou sur Sirius, etc. etc. On va continuer à creuser un petit peu derrière, dans les coulisses de cette affaire extraordinaire, avec mes invités bien sûr, avec d'autres documents RTL que je voudrais vous faire entendre dans un petit instant, le temps d'une pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Derrière cette histoire de l'ordre du temple solaire, il y a, ou derrière, ou devant, je ne sais pas comment il faut dire, un immense point d'interrogation. Il y a plein de questions qu'on se pose encore aujourd'hui, 25 ans après. On n'a pas de réponse. Alors, il y a un certain nombre de réponses, certainement, dans votre livre, Julien Sansonas, dans votre roman, on va dire, L'Enfant aux étoiles, qui vient de paraître aux éditions de L'Air. Il y a, alors on va peut-être choquer là, des gens qui nous écoutent, parce que vous ne parlez pas de secte, vous parlez de mouvement initiatique, et vous dites finalement que si on reprend un certain nombre de textes, de contenus, on va dire, de propos qui ont été tenus par Dimambro ou par d'autres, bah ça a un sens, c'est pas de comment dire, il y a l'idée d'une révélation, d'une mission, donc on pourrait penser que cette organisation initiatique était incohérente, mais les messages sont cohérents.
Oui. L'idée est effectivement de pas porter un jugement finalement sur ce qui relève des croyances des uns et des autres. Et je prends un exemple avec la doctrine chrétienne, le christianisme, où il est enseigné que la mer s'est séparée en deux, il est enseigné que Jésus a marché sur un lac, a multiplié les pains, etc. etc. Donc finalement, ce qui est délirant, c'est à relativiser. Finalement, le mystique et l'ésotérique, bah, ma foi, ça fait partie de la religion et des croyances des uns et des autres. Naturellement, c'est absolument indéfendable à partir du moment où il y a une emprise sur les gens, et puis à partir du moment en plus où ils se font tuer. Donc il ne s'agit pas du tout de légitimer, il s'agit par contre de comprendre que ce qui était dit n'est pas forcément plus délirant que ce qu'on entend dans d'autres mouvements.
Mais cette idée de la carbonisation, elle est... on lui donne un sens dans ce que moi j'appelle la secte. Oui. C'est-à-dire que là, on revient à l'alchimie. Il faut... Voilà. C'est le propre corps des adeptes qui va devenir la matière alchimique qu'il faut transformer pour renaître à nouveau, etc. Oui, oui.
Alors, c'est clairement une secte. Hein. Vous avez raison de dire que c'est une secte. J'utilise pas ce mot parce qu'il est tellement chargé, tellement connoté, finalement qu'il écrase tout et qu'on comprend plus rien. Mais c'est effectivement bien sûr une secte. La carbonisation, oui, elle avait un sens finalement de purification, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de doctrines ésotériques et mystiques, l'idée qu'il faille mourir pour renaître. Le problème, c'est que cette mort et cette renaissance, elle est symbolique. Généralement, l'homme ancien meurt et puis renaît dans la lumière du Christ ou la lumière de Bouddha ou que sais-je. Or, effectivement, ici, ce que les adeptes ne savaient pas forcément, semble-t-il, certains le savaient, mais probablement pas tous, c'est que le transit, la carbonisation et la mort étaient une mort réelle. Et l'une des zones d'ombre autour de l'affaire du temple solaire, c'est quelle est la part de suicide et quelle est la part de meurtre. Et ça, à mon avis, on ne le saura jamais. C'est absolument certain que certains se sont, c'est absolument sûr que certains se sont suicidés. On le sait, ils en ont témoigné, etc. D'autres, on comprend pas pourquoi ils ont été assassinés. Certains ont été pris dans des pièges, dans des traquenards. Ils ont été amenés à Chéri alors qu'ils n'avaient aucune raison d'y être. Oui. Est-ce qu'ils savaient quelque chose? Est-ce qu'on a voulu protéger quelqu'un?
Menacer la secte avec des choses qu'ils avaient vues ou entendues. Ça fait partie des questions.
Ça fait partie des questions et des zones d'ombre.
Ouais. Alors, Éric Lemasson, on va terminer par cela. Justement, un certain nombre de proches et de parties civiles, notamment la famille Vouarnais, a confié des expertises à un scientifique, le professeur Lavoué, qui est un expert qui a pignon sur rue, c'est pas un expert ésotérique. Hein. Et cet homme-là dit, quand on analyse les corps de ceux qui ont été brûlés, notamment dans le Vercors, on s'aperçoit qu'en fait, pour brûler ces corps à ce point-là, il aurait fallu un smirmoc de bois sec placé sur les corps pour parce que il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur, et comme et il a trouvé dans ses analyses beaucoup de phosphore. Or le phosphore, on le rapproche du lance-flamme, ça voudrait dire que des gens ont tenu un lance-flamme, et ça voudrait dire qu'il y a des gens qui courent toujours et qui sont responsables quelque part de cette horreur.
Au minimum des complicités ou des auteurs qui auraient agi pour le compte de ceux qui sont morts, même éventuellement. Vous savez, dans cette affaire, on passe toujours par plusieurs phases, tous ceux qui s'y intéressent. Une phase rationnelle, une phase ultra-conspirationniste. On voit par exemple que Dimambro ayant été membre du SAC, il y a eu deux policiers sur place. Ça veut dire que Charles Pasqua étant ministre de l'Intérieur, ça veut dire que c'est Pasqua le responsable. On a tout entendu. On a entendu des mouvements de fond en Australie, donc les responsables sont en Australie, etc. Et puis la phase après, c'est finalement celle de la justice et de la police, c'est de s'appuyer sur du concret, sur des choses tangibles, et de se dire que très probablement, c'est une forme d'assassinat collectif dont les responsables principaux sont morts, suicidés, eux, même s'il y a éventuellement des complicités, éventuellement des co-responsabilités à l'extérieur. Mais pour ma part, je vous avoue que je n'irai pas plus loin dans cette thèse conspirationniste sur l'ordre du temple solaire.
Voilà, mais je ne pouvais pas ne pas vous poser des questions, parce qu'en relisant le dossier ce matin pour préparer l'émission, je suis retombé sur ces fameuses analyses du professeur Lavoie. C'est quand même assez troublant, vous les connaissez évidemment, Julien Sansonin.
Ouais. Bien sûr, il y a quelque chose de poignant et de triste finalement dans les années, l'énergie passée par certaines familles de victimes à essayer de pousser ces thèses-là. Mmh. Est-ce qu'ils avaient raison ou pas, je ne le sais pas, mais c'est des gens qui ont laissé beaucoup d'argent et pour beaucoup aussi leur santé dans cette affaire.
Je vous remercie. Merci infiniment. C'est vous qui nous avez donc donné l'occasion de faire cette émission. Merci Éric Lemasson. Et maintenant, évidemment, je pense que l'ordre du Temple solaire n'est plus. Mais existe-t-il une résurgence cosmique ou pas? Ça, nous n'avons pas la réponse à cette question. Je vous rappelle en tout cas, si vous voulez vous plonger dans l'atmosphère inventée par un romancier de ce qu'a pu être cette secte et cette aventure terrible, L'Enfant aux étoiles, le livre de Julien Sansonin, ce qui vient de paraître aux éditions de l'Air. L'émission est maintenant terminée. À bientôt.